Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps.
Si je peux me permettre, tu sais pas où tu seras dans 3 ans. Moi, je sais pas. Peut-être toi aussi, mais moi, je sais pas.
Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue.
Le futur a montré certaines choses.
J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps.
Tu peux faire certaines erreurs dans le passé que tu fais plus dans le futur.
Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After en direct sur RMC, en direct sur After Foot TV, en direct sur la chaîne YouTube de l'After jusqu'à minuit. L'After première radio de France le soir grâce à Daniel Riolo qui est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Grâce à Kevin Diaz avec nous ce soir.
Salut à tous.
Salut Kevin. Et grâce à Florent Gautreau qui rentre tel un artiste attendu et déterminé.
Salut à tous.
Salut Florent.
Je vais laisser sa place mais normalement en retard c'est au pic. Hein.
Bah, retard, c'est combien Lusitanos l'amende?
50 euros.
50 euros? Ah, t'es dur, ça, c'est ce qu'ils gagnent au moins, les mecs.
Mais t'inquiète pas pour eux.
Et c'est quoi, qu'est-ce que tu appelles le retard? Retard à l'entraînement?
Ah non, retard, là, c'est jour de match, là, on n'est pas à l'entraînement, là.
C'est... Jour de match. Mais et c'est quoi, retard? Parce qu'il y a un rendez-vous, comment vous fixez le rendez-vous, en fait?
Bah, le rendez-vous, c'est 16h30, dernier délai. Si t'es là à 16h31.
Mais c'est quoi, assis dans le vestiaire, c'est qu'est-ce que vous attendez?
Non,
qu'est-ce que vous appelez la présence?
Quand tu rentres dans le vestiaire.
Quand tu rentres dans le vestiaire.
Dans les locaux.
D'accord, ok.
Voilà. Ouais. T'as garé ta voiture, tu rentres dans les locaux, t'es pas en retard.
J'entends. Voilà.
Ah, okay. C'est la méthode hollandaise. Hein,
Ouais, c'est bien. J'aime
l'heure,
bien.
C'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure.
Je devrais mettre 50 euros à Flo.
Demande à Flo de lâcher 50 balles tout de suite. Là, ça va être très bien.
Oui, t'es en retard, tu lâches.
T'es en retard. Tu vois, Gilbert a dit Florent Gautreau, je dis bonjour. Pour moi, c'est ça le. Bon, alors, on va considérer que le retard désormais, c'est quand je lance la personne et que si elle n'est pas là pour me répondre.
Donc, oui, s'il avait été sérieux. J'aurais noté qu'il a quand même laissé traîner. Cool. Oui, donc, et la troisième personne va arriver, le déterminé.
Le Gautreau, il est annoncé en deuxième. Pas en troisième.
C'est même pas qu'il a laissé traîner la phrase, Gilbert. Ouais.
Je reconnais que le coach était sympa.
C'était cadeau.
Et j'aime bien ta technique. Tu lances ce bonjour, si le mec est pas là,
amende. 50 balles.
Bon, l'événement, les gars, ce soir, c'est bien sûr la finale de la Ligue des Champions. C'est dans maintenant 44 heures. Enfin, un peu moins. 43 heures.
Il a bossé, Gilbert.
Ah oui, c'est ça.
44 okay. heures. Eh ouais. Oui. 18
J'arrive
heures.
Je pas à m'y faire que ce soit 18 heures.
Bah, il va falloir.
Chaque fois, je pense à ma journée de samedi, j'ai un souci d'horaire.
Mais en grosse soirée sur RMC, on sera en direct dès la fin du match et jusqu'à, on l'espère, très tard dans la nuit, si le PSG l'emporte.
Parce que tu vois, t'as pas mis de crème solaire, toi, Roland Garros, aujourd'hui.
Si, j'en ai mis, mais je.
Une grosse partie de l'équipe de l'After était à Roland Garros.
Moi, j'ai pas croqué, moi.
Moi non plus. Je signale à tous les
ça
auditeurs
se voit, tout blanc.
Qu'effectivement, il y en a qui bossaient pendant que les autres croquaient.
Moi, je suis caramel de naissance.
Moi, je dirais plutôt dulce de leche.
Ouais, c'est pas mal. Après, moi, j'ai la couleur automne-hiver et printemps-été. C'est comme la Fashion Week.
En revanche, j'ai pas trop compris, mais okay.
Bah, j'ai deux couleurs, quoi. Les couleurs en hiver.
Bon, tu en okay. Je suis en plein sommaire.
Daniel, reprends. Il s'est passé des trucs à Roland Garros aujourd'hui, non?
Ouais.
Ah non, ça y est, vous allez pas partir là-dessus tout de suite.
Ah ok, non, c'était pour savoir.
Par rapport à quoi?
Non, par rapport à.
Ah, parce que tu vas faire comme Walid, vous moquez des souffrants et des malades?
Mais non.
Non, mais faire des malades.
Mais non, mais t'avais dit que le tournoi était déjà gagné.
Si le mec il a une défaillance, t'avais dit que le tournoi était déjà gagné.
Attention, le sport, reste le sport.
Son seul adversaire était sa santé.
Il y a un truc.
Qui commence à devenir préoccupant.
Non, mais il n'y a pas un truc lié au soleil, justement, et à la chaleur?
Si, bien sûr que si.
Je sais pas s'il y a ça, mais j'avais lu un papier.
Évidemment qu'il en souffre, on le sait. On sait depuis longtemps qu'il souffre de ça. Mais plus globalement, il faut s'interroger sur la santé de ces joueurs qui enchaînent. Moi je trouve, j'ai pas l'impression que leur calendrier soit si démoniaque. C'est délirant, voyages, mais je trouve quand même que ce soit Sinner et Alcaraz, parce qu'Alcaraz aussi, on n'en parle pas, mais il va rater deux grands chelems, il n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison. Alors, ok, on peut me dire sa blessure, c'est une blessure identifiée, poignée, c'est pas une défaillance sur le court, mais je trouve qu'ils prennent vraiment, vraiment beaucoup, ils ont beaucoup de précautions vis-à-vis de, par rapport à leur corps, à la différence de ceux de la bande qui était là avant, qui était lancée dans une espèce de course frénétique au record, au risque peut-être de leur santé. Demain sort un doc qui va être absolument passionnant sur Nadal, où on apprendra à quel point il a joué pendant des années blessé au risque de sa santé, sous infiltration anti-inflammatoire très fréquemment. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ils sont beaucoup plus fragiles. Est-ce qu'ils sont normaux et que c'était les autres qui étaient pas normaux? Je sais pas.
Et puis après, il y a l'état.
Parce qu'il faisait pas si chaud que ça. Enfin, il faisait très chaud aujourd'hui, mais
non, aujourd'hui, c'est la canicule.
Ou non, mais en Australie, il est arrivé qu'il joue avec. Après, il y a le protocole chaleur, il existe depuis peu en Australie. Pendant des années.
Les fameux œufs en Australie que tu faisais cuire sur
le. Oui, voilà. Tu te souviens de ces reportages-là, ça n'existe plus. Aujourd'hui, au-delà d'une certaine température, toit fermé, on a changé. C'est comme les cooling breaks dans le foot. Après, à une époque, ça n'existait pas. On jouait au Mexique, le quart de finale 86.
Moi, je pense que
c'était
grosse,
la folie. Ou à Séville, la demi-finale de.
Il y a une grosse différence, Daniel. Tout sport confondu, foot, tennis ou quoi. C'est que tu as désormais une intensité. Dans la pratique
et dans l'effort, oui,
dans l'effort,
c'est vrai.
Je veux dire, voilà, le France-Brésil, si vous revoyez les images aujourd'hui par rapport à un match de haut niveau de Ligue des Champions aujourd'hui, bah, ça va à 2000 en fait. Oui. Ça n'allait pas à 2000. Et le tennis, c'est pareil. Si tu regardes les matchs des années 70, t'as l'impression que ça jouait à 2 heures par rapport à maintenant.
Ils n'ont pas les mêmes corps, leur matériel, leur nutrition.
Le corps humain reste beaucoup plus développé. Le corps humain reste quand même fragile, hein, ça reste quand même. Et puis après, franchement, c'est comme la soutenance, mais si la soutenance à la chaleur ou au froid, il y a des gens qui ne supportent pas de faire du sport quand il fait moins de zéro. Il y en a d'autres qui le supportent. Moi, franchement, j'avais du mal à jouer.
On est quand même dans une société où ce que les Américains appellent le care a beaucoup augmenté.
Oui, mais le care pour monsieur tout le monde. En fait, moi, je vais te dire,
non,
sportif de haut niveau.
Même les sportifs, regarde la cooling break. C'est quoi?
Oui, mais globalement, sportif de haut niveau, ça te détruit. On parle du sport de haut niveau tout le temps, le foot et tout, mais ça te détruit.
Les hanches pour les footballeurs.
Moi, je ne souhaite pas à mes enfants d'être sportifs de haut niveau, très franchement. Faites des études.
Les genoux, les pieds, voilà. L'arthrose.
Le sport de haut niveau, ça te détruit.
Si tu veux te lancer dans cette aventure-là et que tu y arrives, c'est des expériences fantastiques, fabuleuses. Tu peux pas. C'est un rêve.
Le sport ou quoi? Je suis allé à l'hôpital uniquement à cause du sport depuis que je suis né. Si j'avais pas fait de sport, j'aurais jamais mis les pieds dans un hosto. J'ai un petit souci à l'oreille. Ouais.
Au moment où je dis je vais à l'hôpital, je vois qu'il a l'oreille en sang. Qu'est-ce que tu fais?
Je vais faire une pause. Je sais pas. Ouais,
on va te soigner là.
Je fais une pause infirmerie.
Je pense qu'il faut que tu y ailles là.
Du coup, je reprends mon sommaire. Je disais donc l'événement du soir, c'est la finale de la Ligue des Champions qui rapproche dans maintenant moins de 44 heures. Toutes les infos du jour dans quelques secondes. Et puis un débat. Est-ce que PSG-Arsenal sera avant tout un duel de coach? On va en parler. On attend vos avis au 32-16. Kevin, d'ailleurs, nous expliquera ensuite pourquoi il faut s'inspirer de la méthode Arteta. Ce sera tout à l'heure. L'avis de l'after ensuite sur l'élection de Mbappé comme joueur préféré des supporters du Real. Tiens, alors qu'on pensait qu'il était détesté par tout le monde.
Non, je pense que c'est truqué, non?
C'est pas possible.
Comme les
pétitions récentes.
Tout le monde disait sur les réseaux qu'à Madrid, il était honni.
Il y a un autre sondage aujourd'hui dans l'équipe où on voit que, bon, ça, a priori, ça devrait aller.
Je pensais qu'il était, quand tu lis les réseaux sociaux, t'as l'impression que c'est la guerre nucléaire.
En même temps, arrête de lire les réseaux sociaux.
C'est l'avis également de beaucoup de gens dans les rédactions. On entend des choses complètement folles. La mesure n'existe plus à ce sujet.
On en débattra tout à l'heure.
On va voir que les supporters du Real l'ont élu meilleur joueur de la saison. Je suis tombé de ma chaise.
Et puis à 23h, nous irons au Brésil. Eh oui, la Coupe du Monde, c'est dans 14 jours. Les gars, vous saurez tout d'abord de Philippe Luis. Ça, c'est le radar avec la Coupe du Monde. Mais Philippe Luis, le coach, arrive à Monaco.
C'était le coach hype du Mondial des clubs l'année dernière.
Ouais, exact.
Hein,
une bonne tronche d'ailleurs. Et puis, vous saurez tout de la dernière dinguerie Neymar. Appelé donc il y a quelques heures, blessé, et du coup, participation à la Coupe du Monde, remise en question d'ores et déjà.
C'est pas comme si j'avais pas annoncé le scénario.
C'est la blessure.
Ah si.
Tu avais annoncé qu'il allait être blessé.
Oui, je sais pas qui était là ce soir-là, mais oui.
Ah bon, ouais. On va essayer de retrouver les preuves.
Il y a pas de problème.
Et puis on parlera également de l'imbroglio des barrages. Demain match retour entre Nice et Saint-Etienne sur RMC. Abdi a quitté Nice aujourd'hui pour rejoindre la sélection tunisienne. On a des infos à vous faire partager, on vous expliquera ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, Nice a communiqué également. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. 32-16, on vous attend pour tous ces sujets. Le numéro WhatsApp de l'After également est là. 06-12-424-424. 06-12-424-424. Et puis, vous savez que c'est le début des matchs amicaux. Alors, vous allez me dire que ce match amical-là, peut-être qu'il a assez peu d'intérêt, mais je vous le donne quand même. Le Qatar, qui est à la Coupe du Monde, et en s'étant qualifié cette fois, pas qualifié d'office, le Qatar joue un match amical face à l'Irlande, 1-0 pour les Irlandais, et l'Égypte, qui participe aussi au Mondial, a fait un match amical aujourd'hui contre la Russie. Ils ont gagné 1-0. Voilà. Roland Garros donc ce soir, c'est Arnaud Valadon qui est sur place avec des Français. Arnaud, bonsoir.
Bonsoir messieurs, et pour l'instant ça se passe moyennement sur le cours central pour Arthur Rinderknecht, tête de série numéro 22, mené 2-7-0 face à l'Italien Berrettini. Pas sûr que ça soit demain, c'est Quentin Alice face à Sacha Zverev pour la night demain.
Ah ouais, demain.
Mais ce soir Berrettini qui fait, voilà, qui redonne un peu de couleur aux Italiens, qui mène 2-7-0, 6-4-6-4. Et puis sur le cours numéro 7, à l'instant, Brandon Nakashima vient d'égaliser à 2-7 partout face à Lucas Van Aché. 5e set sur le cours 7.
Alors c'est, je me doutais que ça allait être très long, mais là c'est
3h40 de jeu.
Ah ouais, ouais.
À tout à l'heure.
Lucas Van Aché, ancien joueur de mon club de tennis.
Ah ouais, c'est beau ça.
On l'a vu tout petit.
Julien Laurence est là.
Il est très grand.
Non, il est pas très grand.
Julien Laurence, qu'on a aussi vu tout petit. Hein. Mais on était aussi tout petit.
Je croyais que c'était lui.
On était tous tout petits.
Ah non, ça, c'est Ryan Darnay.
Okay. Salut Julien.
Je suis un peu le tennis, c'est bien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ah, il est déjà là, Julien.
Bah, il est déjà là. Il est là depuis, déjà, il est là depuis plusieurs années. Et là, on est quand même à 48 heures.
À 22h10. De... Je pensais qu'il était déjà à Budapest en train de faire des duplex avec une terre entière.
Ah, tu y es déjà ?
J'y suis. Ouais, je viens de finir la BBC là.
Ah bah voilà.
Ah, il est fort,
là,
il est fort.
Il est déjà là-bas.
Et qu'est-ce qu'on dit sur la BBC ? Ils disent quoi ? C'est intéressant d'avoir
parlé. Eh bien, figure-toi, on a fait un débat un peu similaire que celui qu'on va avoir sur les deux entraîneurs. Sur Luis Enrique et Arteta, les filiations, l'état d'esprit, un peu de tactique, un peu de tout ça aussi.
Bon, du coup t'as bossé ton débat de l'after avec la BBC. Bon, c'est vrai que la BBC, qu'est-ce que ça pèse par rapport à l'after ?
Ça, on se le demande.
Ben, franchement.
Il y a les émissions de foot sur la BBC.
Sur certaines de leurs radios, ouais. Ils ont des radios très musicales et d'autres radios beaucoup plus sportives. Ouais. Mais ça n'arrive pas à la cheville de l'after.
Oui, bon, on est d'accord. Donc, est-ce que ce sera un match de coach avant tout, les gars ?
Moi, je pense que oui. Hein. Clairement.
Alors, qu'est-ce que vous appelez le match de coach ? Est-ce que ça veut dire que c'est un match qui se jouera tactiquement ? Dans la préparation, dans la façon dont va se dérouler le scénario du match, c'est ça que vous entendez par là ?
Bah, je pense que oui, c'est des coachs qui ont quand même beaucoup d'influence et beaucoup d'importance dans l'état d'esprit, mais aussi dans la stratégie qui va employer l'une et l'autre des équipes. Je te parle même pas des coups de pied arrêtés, notamment pour Arsenal, parce que s'il y a bien un domaine où ils peuvent faire mal au Paris Saint-Germain, avec leur densité physique quand même bien moins élevée, leur milieu de terrain qui font 1m70 maximum, par rapport au gros gabarit de cette équipe d'Arsenal. Donc oui, non, je pense que les coachs, le plan de jeu qui sera choisi par l'un et l'autre des coachs, est-ce qu'Arsenal va attendre, est-ce qu'Arsenal va jouer en bloc médian, est-ce qu'Arsenal va aller chercher, est-ce que le PSG va jouer son jeu, est-ce que le PSG va jouer une forme de jeu où ils peuvent attendre aussi, prendre un contre-pied, jouer en transition.
Est-ce que l'un ou l'autre vont réussir à imposer leur idée initiale, déjà, qu'ils auront au départ?
Oui, mais est-ce que l'idée initiale ne sera pas de surprendre pour faire autre chose
Est-ce qu'il va falloir s'adapter à ce que l'autre va proposer. En tout cas, pour reprendre le début du débat, puisque ces derniers temps, on a très souvent eu le débat du rôle aujourd'hui que pouvait avoir la tactique par rapport au management dans le foot d'aujourd'hui. Et vous savez ce que j'ai souvent dit à ce sujet. En revanche, quand on a des coachs et des clubs qui ont, à mon sens, résolu les problèmes de politique sportive, de management, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent leur environnement et ce qu'il y a autour d'eux. Je pense que c'est le cas de ces deux clubs en ce moment. Le travail d'Arteta a commencé bien avant celui de Luis Enrique au PSG. Néanmoins,
il y avait plus de travail.
Exactement. Plus de travail, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait du travail. Mais en tout cas, les deux ont résolu un tas de questions qui se posent dans la politique sportive des clubs. Ils ont nettoyé et mis en place des équipes qui sont performantes, même si c'est dans des styles très différents. Quand on a résolu tous ces problèmes-là, que peu de clubs finissent par résoudre assez vite. Je pense que le Bayern a résolu une grande partie de ces problèmes-là maintenant, avec l'acceptation que Kompany était réellement le coach et tout, parce qu'au début de l'année dernière, il y avait quelques doutes autour de lui.
C'était pareil pour Arteta au début.
Exactement. Quand tu as résolu ces problèmes-là, là, oui, dans le fameux débat qui nous opposait notamment récemment, je ne sais pas si tu étais là, mais il y avait Walid quand on en parlait, ou même l'autre soir avec Pierre Sage. Quand on a réglé ces problèmes-là, là, oui, on peut revenir à des choses où je m'attends à des coups tactiques, je m'attends à ce qu'un coach mette en place quelque chose, je peux m'attendre à ce que on soit surpris par le positionnement d'un joueur ou l'autre. Là, oui. Là, dans ces cas-là, évidemment, on arrive à une sorte d'aboutissement où la tactique elle est prépondérante et évidemment sublimée par l'apport individuel, parce qu'évidemment un attaquant qui te met une frappe poteau ou dedans ou un fait de jeu peut venir un peu dégommer toute la mise en place et la préparation. Mais là je pense qu'on est dans l'élite, là on est véritablement au dernier degré de préparation. Et c'est d'ailleurs assez curieux, enfin curieux je sais pas si justement c'est curieux, mais notable en tout cas que ce soit deux clubs à ce point préparés, à ce point bien managés, qui se retrouvent en finale. Je trouve que ça c'est fort et c'est ça qui est remarquable.
J'aimerais qu'on rentre un peu concrètement sur ce duel de coach. On a vu par exemple lors du tour précédent que PSG Bayern était aussi un duel de coach dans la stratégie, dans ce qu'ils ont mis en place et tout. Est-ce que concrètement, qu'est-ce que Arteta pourrait préparer d'un peu surprenant, toi qui le connais bien, Julien?
Alors moi je pense qu'il va logiquement, et je pense qu'il connaît cette équipe du PSG par cœur, sincèrement, déjà la demi-finale de la saison dernière, rappelez-vous on avait vu deux matchs fantastiques. Finalement, le PSG s'est qualifié, mais ça aurait très bien pu tourner de l'autre côté, on en a déjà parlé un petit peu. Si Donnarumma sort pas des arrêts assez incroyables à l'aller et au retour, ça peut tourner différemment. Mais je pense que, dans un sens, il y a un côté exemple de ce que Luis Enrique a fait au PSG, qu'Arteta est en train de suivre, ou a essayé de suivre, ou a suivi à Arsenal. Dans le changement de culture, le changement de mentalité, la machine qu'il a construite, qui est une machine très différente de la machine que Luis Enrique a construite. Ce sont deux entraîneurs qui sont très similaires, mais aussi très différents, d'ailleurs. Mais en tout cas, dans le mâle alpha qu'ils représentent tous les deux, les patrons qu'ils sont, ça bouge pas. Les grandes stars, demain, ce sera eux. Ce sera personne d'autre. Pas un Saka, pas un Dembélé, pas un Kvaratskhelia, pas un Odegaard.
Et si t'as un de ces mecs-là qui met un doublé ou qui met une frappe lucarne,
oui, mais tu vois ce que je veux dire.
Le joueur de foot qui est la star sur un T1 va reprendre le dessus.
Disons que c'est les hommes de base du projet.
Oui, voilà, ça, bien sûr. Oh, oui.
Et moi, je pense que Arteta peut préparer quelque chose. En fait, le PSG pose tellement de questions à ses adversaires à chaque match, parce que c'est dur de jouer contre eux. Il y a tellement de variations, il y a tellement de permutations, il y a tellement de mouvements. C'est ce qu'on explique souvent, la fluidité à l'intérieur de la structure qu'ils ont. Maintenant, ils ont rarement joué contre une équipe qui voulait peut-être offrir quelque chose d'assez similaire. Mais si tu regardes par moment comment cette équipe d'Arsenal a joué, ou comment elle est capable de jouer, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle l'a pas fait non plus, mais Calafiori a un rôle très similaire de celui d'Hakimi, par exemple, parfois. Il vient au milieu de terrain, il se retrouve dans la surface adverse, il est très offensif, il est très libre, finalement, dans ce qu'il peut faire quand Arsenal a le ballon. Si tu prends un joueur comme Lewis Kelly, par exemple, qui, pendant les trois quarts de la saison, a quasiment pas joué, et puis là, finalement, on est en train de se rendre compte, du côté d'Arsenal, qu'il a plein de qualités qui sont très intéressantes pour jouer contre des équipes comme le PSG. Lui, c'est pareil. Il peut résister au pressing, il est très intelligent dans la façon dont il joue, il perd peu le ballon, en général. Ça peut être très intéressant pour un match comme celui-là. Et en fait, je pense que tu peux, si t'es Arsenal et Arteta, si t'es courageux, hein, parce qu'ils peuvent aussi faire quelque chose de plutôt neutre et très bien défendre et être difficile de jouer contre, mais tu peux aussi essayer de prendre le PSG à son propre jeu. Et toi,
de toute façon, aujourd'hui, Julien, comme tu dis, prendre le PSG à son propre jeu, c'est aussi d'être aussi hybride que eux. Parce que le PSG, aujourd'hui, pourquoi c'est la meilleure équipe d'Europe? C'est parce qu'ils savent tout faire. Ils savent avoir le ballon, ils savent subir, ils savent jouer en transition, ils savent jouer en transition en récupérant les ballons hauts, ils savent aussi jouer en transition en récupérant les ballons bas. Et c'est là où ils sont le plus dangereux.
C'est exactement ça que j'allais dire. Je trouve que c'est même là où ils sont devenus meilleurs, c'est dans les phases de transition. Ils ont des sorties de balles ultra rapides avec des joueurs rapides très forts dans l'élimination. Le fait de donner l'avant-dernier et le dernier bon ballon, et en plus ils sont habiles dans la finition, mais c'est véritablement dans le jeu de transition que je les trouve le plus performant. Ce que j'aimerais dire également, c'est deux coachs,
ou alors tu le dis après la pause.
Après la pause, hein.
Très bien, on se retrouve donc tout de suite, le débat continue et Thomas au 32-16 veut également y participer.
RMC 22h minuit, l'after foot,
Gilbert Bribois.
Il est 22h19, l'after est là jusqu'à minuit. Julien Laurence toujours avec nous, car on parle à moins de 48 heures du match de la finale de la Ligue des Champions, bien sûr. Énorme événement samedi sur RMC. Daniel Riolo, Kevin Diaz, et notre débat sur la finale, le match des coachs qui se prépare. On a Thomas avec nous.
Je vais finir ma phrase. Chaque fois que tu fais genre après la pub, et puis après la pub, il y a Thomas qui arrive.
D'habitude, tu oublies.
Non, je voulais juste terminer ma remarque concernant les deux coachs. C'est que ce sont des coachs qui ont su évoluer et qui ont, parce qu'ils viennent plutôt d'une école assez dogmatique. Ils viennent de la même pensée footballistique et ils le sont encore aujourd'hui, même si ça ne se voit pas toujours sur le terrain dans la façon dont l'équipe évolue. Néanmoins, ils viennent de la même pensée footballistique. Mais les deux ont su évoluer. On a beaucoup dit cette année à quel point Mikel Arteta avait, paraît-il, changé le jeu de son équipe. On a beaucoup parlé du retour du boring Arsenal. Je pense que c'est plus une équipe qui est capable de beaucoup bouger en fonction des joueurs qu'elle a à sa disposition et qui peut proposer des belles prestations comme des prestations plus épicière, on va dire. Mais le PSG aussi a beaucoup évolué. Entre le PSG de la première partie de saison, enfin de la première époque, Luis Enrique, qui était beaucoup dans cette possession stérile, un peu latérale, et celle de 2025, qui est devenue beaucoup plus directe. Mais aussi parce que tout le groupe a fini par le suivre, alors qu'au départ, ça n'a pas été si simple. D'ailleurs, comme Mikel Arteta, qui a mis du temps lui aussi à être complètement accepté et avoir un groupe totalement à son écoute, avec des staffs très importants. On parle beaucoup, bon, évidemment, le staff de Luis Enrique, on le connaît, il est extrêmement important. Celui d'Arsenal aussi, avec le rôle de Gabi Ainsa notamment, le fameux gars qui fait les coups de pied arrêtés. Des staffs étoffés et qui regardent exactement dans la même direction. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'ils avaient résolu tous les problèmes de direction du club et de management pour se consacrer uniquement à ce qui se passe sur le terrain.
C'est d'ailleurs ce que je
et ils sont capables de s'adapter à l'adversaire et de jouer de façon différente, en fait.
Thomas, au 32-16. Salut Thomas.
Salut Gilbert. Salut à tous.
Salut Thomas. T'es supporter du PSG. Est-ce que tu te dis que c'est les aspirations de Luis Enrique et Arteta qui peuvent décider du match?
De toute façon, on va avoir un match avec des styles assumés de part et d'autre. Hein, je pense que les deux entraîneurs vont maintenir ce qu'ils ont montré toute l'année. Mais on risque de retrouver effectivement en fait une équipe comme Arsenal, surtout pour les avoir souvent vus jouer on savait très vite qu'on jouait contre eux. Donc avoir vu les derniers matchs d'Arsenal, c'est une équipe qui en fait aime aussi imposer son rythme, c'est-à-dire en cassant un peu celui de l'adversaire. Julien, je sais pas s'il pourra confirmer, j'ai vu une stat qui est passée récemment. Ils ont gagné un match contre Brighton cette année en première ligue en jouant que 60 minutes et en passant 30 minutes à faire des remises en jeu, des corners, casser un peu le rythme, faire casser un peu le jeu et gagner 1-0 à la fin. Arsenal, c'est là à mon avis que vient le dicton boring Arsenal. Mais on a Paris, et je rejoins Daniel en fait, qui pour moi est très très fort dans les transitions, et je pense que c'est la force numéro une de cette équipe, et Luis Enrique en a fait vraiment une machine sur ce plan tactique. Et c'est vrai que quand vous avez des ressorties de balles comme ça aux 30 mètres où ça va très très vite, c'est là que Paris pour moi est le plus dangereux. Mais Paris sait s'adapter à tout type d'adversaire. Au moins un Liverpool qui est venu au Parc cette année, jouait très bas, bloc très bas. Paris a trouvé des différences quand même malgré tout avec une frappe de Doué. Bon voilà, c'est la grande force du PSG pour moi, c'est de s'adapter, et ils pourront s'adapter au style d'Arsenal.
Aujourd'hui, de toute façon.
Et ensuite, Julien.
Moi, il y a un surnom que je ne peux pas, je déteste l'entendre, c'est ce dont tu viens de parler, c'est Boring Arsenal. Mais boring quoi, en fait? Boring quoi? Ils ont gagné le titre, il n'y a pas de boring.
En fait, tu recycles une vieille expression des années 80.
Oui, mais j'avais bien compris. Mais aujourd'hui, en quoi cet Arsenal est ennuyant? Aujourd'hui, il faut savoir que de plus en plus d'équipes et de plus en plus de managers de très haut niveau ne veulent plus avoir la possession parce qu'ils considèrent qu'une possession qui est subie n'est pas une possession. Souvent on dit « Ah, j'ai eu la possession ». Mais est-ce que tu as eu la possession parce que l'adversaire t'a laissé avoir la possession et parce qu'elle pensait qu'elle allait plus te mettre en difficulté en te laissant avoir le ballon? C'est souvent l'image que je prends, c'est le boxeur que tu laisses avancer pour se découvrir. Mais que toi, tu as ta stratégie, et dès qu'il va essayer de t'en mettre une, c'est là où tu vas tenter l'hypercute ou le crochet. Le contre. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes, notamment Arsenal et le Paris Saint-Germain aussi, mais même Manchester City, hein, qui pour moi, je le disais quand on commentait la première ligue, Julien.
Ah bah la possession n'est plus du tout à la mode.
Où je disais que même Manchester City s'était mué quand même dans une équipe qui maîtrisait de mieux en mieux la transition, notamment avec quand Ederson est arrivé et qu'il était capable en une passe de trouver Agüero qui était derrière le dos de la défense.
Transition, joueur d'impact.
Il faut faire les deux.
Très fort dans l'avant-dernière passe. Évidemment la dernière, mais déjà celle qui va casser le premier rideau. Maintenant, le football de très haut niveau, c'est souvent là que ça se joue. Hein.
Alors Julien, est-ce que Thomas t'a interpellé là? Vas-y, tu peux répondre. Et non, mais ensuite est là. Oui. Vas-y.
Ouais, ça fait plusieurs fois maintenant qu'on le dit. Hein. Cette équipe d'Arsenal, c'est la meilleure pour contrôler le tempo, contrôler le rythme d'un match. Et ça, t'as parlé Thomas.
Franchement, s'ils arrivent à faire ça contre le PSG, Julien, je suis sur le cul.
Ouais, mais moi aussi. Mais ce que j'allais dire sur ce que disait Thomas, il a parlé de Liverpool tout à l'heure. Mais Liverpool, c'était à contre-emploi le bloc bas. C'est pas ce qu'ils font habituellement. Ouais. Le PSG cette année n'a jamais joué contre une équipe du niveau d'Arsenal sans ballon dans la structure défensive que raison, l'adversaire oui. va pouvoir le... Mais de la même façon, on peut aussi dire que cette équipe d'Arsenal n'a jamais affronté un pressing aussi efficace et intense que celui du PSG aussi. Donc ça ira dans les deux sens et on verra bien au final qui sortira vainqueur de la bataille que l'autre va lui apporter. Mais c'est vrai qu'une équipe, regarde, si tu regardes le match du Bayern ouvert, ça marche pour le PSG dans plein de sens. Le match de Chelsea ouvert, pareil. Le match de Liverpool finalement aussi, même s'ils ont essayé de faire ce bloc bas et qui finalement n'avait aucun sens, la défense à 5 de Slot au match aller, elle est ridicule. Ça a ni queue ni tête. Mais ça a joué sur les forces du PSG. Là, samedi, ça jouera pas sur les forces du PSG parce que cette équipe d'Arsenal, elle est vraiment difficile à bouger. Si elle joue comme ça, elle peut nous surprendre et Arteta peut faire quelque chose de différemment. Mais c'est vrai que à ce niveau-là, c'est quelque chose que et le PSG ne connaît pas trop cette saison et Arsenal ne connaît pas trop l'intensité du pressing adverse comme le PSG va peut-être le proposer aussi.
Flo, t'as raté une partie du débat pour un arrêt au stand.
Du coup, il sait pas ce qui a été dit. Non, va-t-il répéter quelque chose qu'on a déjà dit? Non, attention.
Moi, il y a un truc pour répondre à la question, c'est est-ce que c'est un match de coach, une finale de coach? Oui, à 100%, parce que justement, le PSG Bayern, pour moi, était un match totalement hors norme. Dans le sens où les deux coachs, quelque part, ont presque tapé dans la main avant le match en disant, OK, c'est l'équipe qui marquera le plus de buts, qui va l'emporter, on est d'accord et on y va. Et là, dans ce cas-là, c'est le talent des joueurs. Je me souviens que Polo avait dit ça d'ailleurs en disant, je peux pas vous dire ce qui va se passer parce que le talent des joueurs va s'exprimer et une frappe en lucarne et un machin va faire la diff. Et auquel cas, je dirais que ce PSG Bayern n'était pas vraiment un match d'entraîneur, c'était pour moi un match de joueurs. Alors que là, comme le vient de le dire Julien, par rapport à ces deux faits, c'est-à-dire que Arsenal soit aussi fort sans ballon et que le PSG ait ce pressing aussi puissant et que aussi intense que l'on connaît, fait que là, les coachs, dans leur décision de mettre le bloc plus ou moins médian, parce qu'ils le mettront pas bas, je parle notamment pour Arsenal, dans le contrôle du tempo et de la réaction au pressing contre pressing, là, je pense qu'effectivement, les coachs vont avoir une importance même dans leurs décisions et dans leur rapport et dans leur communication avec l'équipe pendant le match. Donc je pense qu'effectivement c'est plus que jamais un match de coach, en dehors du contexte historique de ces deux coachs, de ce côté on va dire la rivalité barcelonaise, etc., et tout ce qui s'est exprimé on l'a senti dans les mots d'Arteta. Ça déjà c'est un vrai match de coach mental, et je pense que les deux ont envie vraiment de niquer l'autre, enfin, entre guillemets, pour faire simple, mais en plus vraiment, ouais.
C'est cagnotte ça, non?
C'est cagnotte. Clairement cagnotte.
C'est le deuxième amende de la soirée, quand même.
Mais en revanche, match de coach tactique, pour le coup, vraiment, oui. Je pense qu'à la fin, on fera un débat pour dire l'un ou l'autre a gagné.
Ou alors, il va y avoir 0-0, pénalty, quoi.
Non, je pense pas.
Et Gilbert, aussi, oui. Le coaching en cours de match, hein.
C'est ça.
Aussi un match qui, à l'heure de jeu, peut tourner si tu fais les bons choix en sortie de banc. Et si on regarde les deux bancs, on sait plus ou moins les compos. Alors après, on peut se tromper peut-être, mais est-ce que Barcola et Zaïre Emery, on va dire, en sortie de banc pour le PSG, plus que Gonzalo Ramos ou Kang In Lee, ça vaut plus qu'un Eze ou qu'un Gyökeres? Parce que je pense que Gyökeres sera sur le banc pour commencer. Et à quel moment ton banc à toi?
Comment tu les vois jouer devant alors si Gyökeres démarre pas?
Moi, je pense que c'est Havertz qui va jouer, mais finalement, ça a du sens si c'est Havertz. Dans l'intelligence de jeu, le fait qu'il puisse décrocher et jouer entre les lignes, par exemple. Si t'es pas de chaud aujourd'hui, tu préfères qui, Gyökeres ou Havertz?
Havertz avec quoi? Avec Saka et
Saka à droite. Et moi, j'aurais mis Eze à gauche, mais je pense que ce sera Trossard à gauche. En plus, Trossard, dans les gros matchs, il a été bon cette saison. Tu vois, mais pour moi, enfin, après, c'est possible que ce soit Gyökeres, hein, je sais, qui préfère la puissance et s'il veut jouer en transition, de toute façon, même si cette équipe d'Arsenal, pour moi, elle est pas faite pour jouer en transition. Mais si
le côté harceleur prêt à beaucoup courir de Gyökeres, ça peut être un choix, hein, pour.
Ouais, mais ça, si tu presses haut, je crois pas
parce que au contraire, si tu arranges, à mon avis, si tu mets Gyökeres, enfin, comme ça, surtout en compo de départ.
Ouais.
Non, mais si tu mets en compo de départ, tu arranges presque pas de chaud dans le duel et dans la capacité à lui monter dessus. Alors qu'effectivement, la compo, même avec Trossard, Saka évidemment, et effectivement Havertz, que je trouve quand même énorme, peu embêter. Moi j'insistais sur ce côté gauche aussi, Trossard, enfin a priori si tu dis que c'est Trossard, par rapport à Hakimi, où j'en ai parlé hier, où vous avez Emery, mais bon, a priori c'est Hakimi qui devrait jouer, et moi ça m'intéresse aussi de regarder ce côté là parce que je pense qu'il va y avoir des opportunités aussi pour Arsenal d'ailleurs.
Mais après, pardon, juste pour finir, Julien, après, on peut parler de toutes ces tactiques, de tous les coachs qu'on veut, etc. Si à un moment, c'est Mosquera qui joue arrière-droit pour Arsenal et qui se fait trouver par Kvaratskhelia pendant tout le match, à un moment, c'est aussi là que le match, il va basculer, ça, c'est sûr.
Ah, mais de toute façon, Julien, tu prépares, mais quand t'as autant de talent sur le terrain, Flo parlait il y a deux minutes de match de joueurs, je comprends parfaitement le concept, mais que la place soit plus ou moins réduite, que l'entraîneur travaille la tactique de façon plus ou moins fine, à l'arrivée, la donnée que tu ne maîtrises pas, tu peux au max maîtriser 70-80%. Vraiment, là, t'es au max du max du max. Mais après, le fait de jeu, la frappe qui passe juste à côté ou qui rentre, la frappe contrée. Rappelle-toi l'année dernière, justement Arsenal, l'arrêt miraculeux de Donnarumma au ras du poteau. C'est qui la frappe de qui d'ailleurs d'Arsenal?
Odegaard.
Bon bah voilà, au bout d'un moment, le joueur il fait la diff.
Non, après,
joueur talentueux, le dribble, encore heureux qu'il reste ça quand même.
Tout le monde en a parlé évidemment, mais il y a quand même un truc que le PSG, pour lequel on disait que c'était aussi un de ses points faibles et qui est un énorme point fort d'Arsenal, c'est les coups de pied arrêtés. Et ça, pour le coup, ce point-là, parce que finalement c'est le point
fort
d'Arsenal. Ouais, vous l'avez déjà dit, j'imagine. Oui. Mais c'est vrai que le point, pour le coup, ça s'est pas trop vu, je dirais, parce que Safonov avec ses sorties un peu particulières où il écarte le danger, ils ont pas été forcément spécialement mis en danger, mais ils n'ont pas rencontré une équipe aussi forte sur ce point-là.
Julien, merci beaucoup. Bonne soirée à Budapest.
Merci les gars.
Vous savez quel ancien international français vit à Budapest?
William Gallas,
c'est vrai.
Ah, bien sûr. Je t'avais pas raconté que je l'avais croisé.
Il est entraîneur de jeunes joueurs à Budapest.
Parce que je l'ai croisé à San Remo quand il est venu à l'invitation de Christian Carambeu, qui est devenu président du club, ça y est, en série D. Le projet COM à San Remo prend de l'ampleur avec beaucoup de Français sur place et Carambeu président.
Voilà. Je parlais au départ de Budapest et de Gallas, on en est arrivé à San Remo, c'est fou.
Bah, Gallas était là et c'est là qu'il m'a raconté sa vie. On bossait ensemble avec William.
Sache que San Remo dans quelques années, ça peut m'intéresser.
Bah, tu devrais plutôt y aller maintenant alors, parce que c'est là qu'il commençait à avoir les billes. Hein.
Ouais, mais là, et s'il prend Carambeu, il veut venir Gallas et tout, Kevin Diaz, il le calcule
pas. Gallas vient pas, il était juste là en visite pour ses amis.
Je l'ai vexé, je crois.
Mais en plus, sans Remo, j'ai fait du vélo avec Daniel Riolo juste derrière le stade, là, la petite piste cyclable.
Le projet est intéressant, c'est maintenant qu'il faut se lancer parce qu'ils ont un gros projet.
Pour l'instant, j'ai un gros projet, j'ai un gros truc.
Ah, d'accord.
Tu le raconteras. Merci Julien, bonne soirée.
Merci les gars, à demain.
Dans un instant, on continue le débat autour d'Arteta parce que c'est l'avis de Kevin du soir. Et puis ensuite, la cote de popularité de Mbappé qui semble en hausse. Dans quelques minutes, on vous raconte tout ça.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h36, messieurs, dames, Daniel Riolo, Kevin Diaz, Florent Gautreau sont là, Mbappé au programme tout à l'heure, Neymar également après 23h. On va aussi parler du barrage, retour de demain soir entre Nice et Saint-Etienne. Mais là, tout de suite, Kevin veut nous parler d'Arteta. Jingle, Kevin Diaz.
Pour moi, il y a hors-jeu. Hors-jeu d'une épaule. Là, je pense que tu peux faire confiance à mon Hawkeye. Et l'épaule, elle est en effet en avant.
Le but va être accordé. 2-1 pour le Félicien.
et pour les Stéphanois, il y avait bien hors-jeu.
J'adore. C'est un des plus beaux, celui-là.
Ouais, c'est vrai qu'il est bien monté.
Je continue de penser qu'il y avait hors-jeu.
Très bien. Bon, écoute, tu t'es convaincu, après
c'est
tout.
Pas de problème.
Il y en a plein qui
Il y en a plein qui pensent que les États-Unis et les Américains ne sont pas allés sur la Lune. T'as le droit de penser qu'il y avait hors-jeu.
C'est le match de Saint-Maur. Dans le foot, on connaissait Sacchi, le match de Fusignan. Nous, c'est Kevin Diaz. Le match de Saint-Maur.
Il y avait un coach, tu connais, le grand Carlos Secretario, qui a joué à Porto, qui a joué au Real Madrid aussi, qui était mon coach à Saint-Maur quand j'ai fini ma carrière et qui m'appelait un peu la sorcière parce qu'il disait qu'à chaque fois que j'étais pas là, l'équipe elle gagnait pas. Donc il m'appelait au blouche. Voilà. C'est pas le match, c'est la sorcière.
Super, c'est une vraie anecdote. Hein. Parce que là, on tient un truc.
On peut remettre le jingle du coup.
Ah non, laisse tomber. Tu passes un peu pour un con quand même. Donc, tu voulais parler d'Arteta, pourquoi?
Ouais, Mikel Arteta, parce que on avait suivi notamment sa première saison grâce à l'excellent documentaire All or Nothing de Amazon Prime à l'époque. Et on avait vu comme quoi c'était très très difficile, bien sûr, la succession, même si c'était pas le successeur direct, mais l'ère post-Wenger avec un club qui était vraiment en pleine dérive.
Tout simplement de s'affirmer parce que beaucoup avaient essayé.
C'est un avis tranché, Daniel. Qui dit avis tranché dit au moins une minute.
C'est un monologue.
Au moins une minute trente. Bah, c'est un peu la base de ton émission.
Laisse-le faire son avis en entier quand même.
Merci.
Toi, quand tu t'es coupé, tu cries sur tout le monde.
T'es fiscaliste ou quoi?
Je suis néerlandais. Donc la règle, c'est la règle. Et donc je disais que Mikel Arteta avait eu beaucoup de mal au début, notamment avec des joueurs qu'on connaît aujourd'hui en Ligue 1, comme Pierre-Emerick Aubameyang, qui était le plus gros salaire de l'histoire à l'époque du club, et avec qui il avait eu des soucis. Et il avait dû taper du poing sur la table. La direction l'avait soutenu et on voyait très bien l'évolution d'un jeune entraîneur. Et il lui a fallu plus de 6 ans pour arriver à gagner ce titre de champion, même s'il avait gagné une cup assez rapidement. Il a été très très vite mis en difficulté, comme beaucoup de jeunes managers, où on l'a remis en question sur sa légitimité en tant que numéro 1, etc. Mais le club a fait le bon choix de le soutenir. Et il y a une image qui va plaire à Daniel, pour le coup, parce qu'il vient d'en parler tout à l'heure. Et en fait, j'ai vu une séquence où Arteta avait une feuille. Tu sais, ces espèces de feuilles qu'on te montre chez le psychologue, où c'est une image que tu peux voir de plusieurs façons différentes. Mmh. Et en fait, la feuille, c'est soit tu vois un lapin avec ses oreilles, soit tu vois, je crois, une tête de félin ou en tout cas un oiseau. Soit tu vois un oiseau, soit tu vois donc un lapin. Et en fait, Arteta disait que, et c'est un peu ce dont je m'inspire à mon petit niveau, c'est qu'en fait, quand t'es dans un club, quand t'es responsable d'un club, alors bien sûr, tu n'es pas tout seul, mais toi, ton idée, c'est que tout le monde dans le club voit la même image. C'est-à-dire que si toi, tu veux que tout le monde voit un lapin, il faut que tout le monde puisse avoir les arguments, avoir la façon de travailler pour voir la même chose et viser dans la même direction avec la même énergie. Parce que si tu commences à avoir des dissensions, c'est compliqué. Et je trouve que Arteta a eu beaucoup de mal, mais ça a été un exemple, et je pense que c'est un exemple de ce que doit faire un grand club. C'est-à-dire, quand tu choisis un manager, bah, il faut le soutenir. Il faut aller jusqu'au bout avec ses idées. Bien sûr, il y aura des moments où le bateau va tanguer, mais en tout cas, il a montré qu'il a réussi à le faire, et franchement, bravo, parce que il a souffert, je pense, et aujourd'hui, c'est une belle récompense. Mais je ne l'appellerai pas du tout Boring Arsenal, je l'appellerai Loving Arsenal.
D'ailleurs, on pourrait s'amuser un jour à faire la liste
pas du tout,
des clubs où tout est bien rangé. Il n'y en a pas tant que ça. Puisque là, on a en finale de la Ligue des Champions deux clubs qui incarnent ça parfaitement.
Le Bayern,
c'est plutôt bien rangé. On pourrait faire une liste. Et
les clubs aussi où c'est très mal rangé, comme Chelsea.
Exactement.
Quoi.
On ne sera pas étonné de constater que c'est ceux qui ont ensuite des résultats.
Chelsea, c'est le syndrome de Diogène. Tu sais, il y a trop de trucs, ils n'arrivent pas à se séparer, ils n'arrivent pas à jeter.
Tu veux dire comme quand ta cave est pleine?
Voilà.
Et que tu dis, mais en fait, tout ça pourrait finir à la poubelle, parce que jamais plus
je l'aurais utilisé. Mais tu jettes jamais, en fait. Sauf que le syndrome de Diogène, c'est leur cave chez eux.
Ça, c'est chaud. Ça.
C'est un truc de fou.
Je sais.
C'est une maladie qui est très, très dangereuse, même.
Il faut
savoir
se séparer.
Mais par exemple, Arsenal, s'ils avaient insisté avec Unai Emery, ça aurait pu marcher aussi.
Bien sûr.
Mais ils avaient manqué de patience.
Parce que tu crois qu'au PSG, si on avait insisté avec Unai Emery, ça n'aurait pas marché.
Thomas Tuchel, pareil.
Tuchel, pareil. Mais pour. Il faut l'installer, le coach. Il faut l'installer. Il y avait encore ce matin, puisqu'il y a une belle série d'ailleurs dans l'équipe, sur les équipes qui ont gagné deux fois de suite. Ce matin, c'était le tour du Milan de Sacchi. On a expliqué l'histoire que tout le monde connaît, quoi. Quand Berlusconi a dit au vestiaire qu'il voulait pas de lui au début, entre l'équipe et lui, je vais choisir lui. Là, tout le monde a même Van Basten le premier, ils ont tous arrêté de chouiner, quoi. Mais à un moment, si t'as pas, et pour Emery, on l'a lâché. Tuchel, quand il dit ici, il faut faire de la politique, il faut pas entraîner, voilà. Au bout d'un moment, tant mieux. C'est Luis Enrique qui en a bénéficié, qui a pu installer sa méthode et qui réussit aujourd'hui, c'est très bien. Mais des bons coachs, il y en a plus qu'on le pense. Sauf qu'après, il leur faut le contexte et
il leur faut la chambre. Alors, la chambre bien rangée.
C'est marrant, il y a un truc que vous avez pas souligné sur les deux coachs là. C'est quand même, c'est incroyable le nombre d'Espagnols maintenant là. Emery. Vainqueur de Coupe d'Europe. Là, Fabregas. Ça va être un Espagnol.
Ouais.
Fabregas avec Co.
Il y a une vraie école.
Il y a eu à un moment une hype portugaise. Et là, c'est les Espagnols.
D'ailleurs, à ce sujet, tu me fais penser à. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview d'Unai Emery il y a deux jours, où il parle de Luis Enrique et des autres coachs, justement un peu dans ce contexte d'école espagnole. Et il y a une phrase qui, à la fois, m'a fait un petit peu de la peine parce que oui, je pense qu'il est victime d'une injustice lui-même et qui traduisait un peu de somme chez lui, mais un somme que je trouve justifié. C'est, il dit, Luis Enrique est un grand coach, Arteta, machin, ci, cela. Et le journaliste lui dit, vous venez de gagner l'Europa League, vous avez un parcours, hein. Et il répond, non, moi, c'est que de la chance, que de la chance. Mais la façon dont il le dit, c'est genre, écoutez, je sais que moi, j'ai pas le tampon catalan. que moi, en gros, c'est pas la méthode intellectuelle, machin. Il y a quand même ça aussi dans le football aujourd'hui. Il y a des mecs qui ont, bah, comme on dit dans le milieu du cinéma ou artistique, qui ont la carte.
Oui.
Il y a des coachs, quoi. Et Emery, moi, à mon sens, a toujours été sous-estimé. Oui, mais considéré un peu moins. D'ailleurs, il a tellement été méprisé quand il est venu au PSG. On disait qu'il s'agitait trop, qu'il parlait pas bien français. Luis Enrique, on n'y a jamais rien dit sur son accent. Unai Emery, quand il a essayé, on se foutait de ta gueule, on l'a
proposé. Ouais, mais
il avait un côté
trop gentil. Tu vois, là où Luis Enrique impressionne et ouais. a quand même une espèce de carrure et de prestance.
Donc, aussi on est dans la com, alors.
Ah, mais bien sûr.
Évidemment.
J'allais te dire, l'allure qu'il a. Ouais, l'allure qu'a Fabregas.
J'arrête pas d'en parler de ça. On rigole quand je parle de ça.
Non, mais bien sûr que non. Bien sûr que Compagnie. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais bien sûr que l'allure de Compagnie, ça parle à ces joueurs-là. Ça parle à cette génération.
Pour Luis Enrique, c'est différent parce que c'est pas l'allure vraiment, c'est plutôt le charisme.
Oui, c'est l'un ou l'autre.
Parce que vous parliez de l'allure de
Compagnie. Ça rentre l'un dedans.
Oui, je suis d'accord. Mais moi, pour rebondir sur ce que tu dis sur Arteta.
Mais vous n'avez pas l'impression quand même qu'il a été.
Si, mais il a un manque de sous-estime. Il a un manque de charisme.
Et qu'encore aujourd'hui, ouais, il en est quoi, 5 Europa League. Ouais,
mais t'as vu,
l'année dernière, son parcours en Ligue des Champions, je répète que c'est peut-être une des équipes avec pourtant moins de vedettes qui a fait le plus souffrir le PSG.
En fait, ils ont une équipe quand même.
En fait, Unai Emery, c'est, je pense, en lisant l'interview, je me suis fait un peu la même réflexion que toi, et je pense que son seum, entre guillemets, c'est parce qu'il n'est pas dans un très grand club. Et qu'il s'est dit, oui, ok, je réussis, et je gagne, la preuve, et ça, personne ne peut me l'enlever.
Mais on l'a tenté.
Oui, mais
est-ce qu'il n'y a pas des entraîneurs qui sont faits pour des clubs, voilà.
Mais est-ce qu'on lui a donné au bon moment les deux clubs?
Non, mais je sais pas. Mais ça, lui, parfois, c'est aussi à toi de t'imposer et d'avoir la chance de le faire avec tes dirigeants. Pour revenir à Arteta, justement, à la fois, évidemment, je suis d'accord avec Kevin sur le côté.
Il n'y avait pas Luis Campos. Hein.
Sur le soutien et sur la durée, parce que c'est ça qui fait la différence. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc supplémentaire cette année, c'est le fait d'avoir su résister dans le moment où on a cru que City allait revenir et qu'ils allaient une nouvelle fois pas savoir et pas pouvoir le faire. Parce que s'ils sont en mesure de challenger là, dans l'avant-match PSG-Arsenal, de se dire que Arsenal peut le faire, c'est en partie aussi parce qu'ils sont champions en Première Ligue. Parce que s'ils n'avaient pas été champions en Première Ligue, ça aurait été une autre histoire.
Et là,
je trouve que donc, psychologiquement, en dehors de tout ce qu'il a montré, ce qu'on a vu dans le doc, ce qu'il a montré sur le terrain, de ce côté assumé aussi sur ses coups de pied arrêtés, ce style de jeu, etc., que je trouve très bien, il a psychologiquement aussi su, on va dire, maintenir la confiance des joueurs à leur plus haut niveau à un moment où ça tanguait, comme tu disais. Et ça, c'est un autre de ses
aspects. Demain soir, on sera en veille de match. On a plus le temps, Kevin. Daniel sera dans l'after, d'ailleurs, pour analyser les compos de départ et tout. Nos reporters seront sur zone,
c'est vrai,
notamment Fabrice, Jean-Louis Tour. Ce sera demain soir dans l'after.
Gilbert, pour finir.
Demain matin, il part demain matin.
Pour finir sur le sujet Mikel Arteta, même s'il n'avait pas gagné l'APL, j'aurais pas pensé qu'il pourrait pas le faire l'an prochain. Pour moi, ça aurait pas été le loser éternel, non.
Ça aurait été
celui qui continue
jouer
de construire et ça aurait fini par payer. Parce que quand tu travailles bien, et comme t'as dit Daniel,
là,
tu as
chambre bien rangée. Historique. Ils sont un peu portés quand même.
Ça, dans un instant, Kylian Mbappé dans l'after. Je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner dans le cadre de notre grand jeu de la liste des 26. Gagner 10 000 euros ou bien le fameux pack Coupe du Monde, vidéoprojecteur, maillot des Bleus, ballon officiel des Bleus. Et alors, j'ai découvert un truc aujourd'hui, parce qu'on a parlé le jour de Playmobil. J'ai découvert le trophée de la Coupe du Monde dans Lego. Bah franchement, il est pas mal.
Ouais, vous pouvez le gagner. Mais Lego, cette année, c'est la folie. C'est eux qui ont fait les pubs avec Messi,
Ronaldo.
Tu sais qu'ils sont évidemment pas venus en même temps pour le tournage. Ils sont tous venus à des moments séparés pour ce tournage-là de la pub.
Mais
la pub, elle est incroyable.
C'est un film, Lego. C'est un film carrément d'1h30 où t'as des Lego animés. Ouais,
c'est pour les mômes, Flo.
Non, c'est pas mal.
Ah, c'est pour toi, t'as regardé ça.
Moi, je suis sûr, pas de chien tombé en enfance.
T'es un enfant, toi.
Ouais.
Et donc, tout à l'heure, vous entendrez l'alerte et vous pourrez jouer. Bien sûr, restez à l'écoute. Faudra envoyer liste par SMS au 732-16 pour gagner tous ces cadeaux. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h50. Daniel Riolo, Florent Gautreau et Kevin Diaz sont là. On veut parler un peu de Kylian Mbappé. Roland Garros nous appelle peut-être. Ça, c'est vraiment qu'on n'y a pas été. Il faut faire un petit point quand même.
Oui, Gilbert, ça sent presque la fin pour Arthur Hinderknecht qui a déjà sauvé deux balles de match. On est sur le service de Berrettini, 5-4. Nouvelle balle de match à suivre pour l'Italien. Et sur le court 7, Lucas Van Hache est breaké dans la cinquième manche, 4-2 pour Nakashima, l'Américain qui est tout service.
Eh bien, elle l'a bien prononcé. Kylian Mbappé. Alors, évidemment, Kylian Mbappé fait débat parmi les supporters du PSG depuis des mois et des mois, fait débat également en Espagne, dans les médias d'ailleurs. Hein. Rappelez-vous, au Chiringuito, par exemple, il y a quelques bien éditorialistes sûr. Qui avaient demandé son départ immédiat, que c'était pas possible, etc. Il y a quelques leaders d'opinion en France aussi qui, on va dire, allument régulièrement Kylian Mbappé. Julien Cazard, suivez mon regard.
Mais il n'est pas leader d'opinion football.
Il parle de foot quand même. Bah là, en ce moment, il parle plus de Roland Garros. Mais puis, il écoute l'after. Mmh. Donc, bah, il est leader dans son genre, Julien.
Bah, non, mais il faudra que tu me dises les journalistes qui le taillent qu'à hauteur de ce qu'on voit à droite à gauche sur les réseaux. Il n'y en a pas tant que ça, en fait.
Mais en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui...
Il y a des débats qui peuvent être très intéressants sur son niveau, sur sa com, sur son positionnement, sur des échecs clairs chez lui.
Enfin, c'est plus des médias, des journalistes espagnols en l'occurrence.
Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux gangrènent tellement les cerveaux qu'ils te cataloguent, ils te mettent dans des cases. Alors que moi, je peux très bien avoir une discussion tout à fait claire et nette sur son niveau actuel, ce qui s'est passé au Real et tout. Mais si tu ne dis pas, c'est un bidon, il est mauvais, c'est un handicap, c'est une gangrène pour une équipe, tu deviens un pro lui. Le problème, c'est quand le débat devient comme ça. Et pour te dire la vérité, quand j'ai vu le résultat de ce sondage.
Alors, il y a plusieurs sondages d'ailleurs.
Moi, oui, mais quand même, quand il y a un vote et que les supporters sociaux du Real le désignent meilleur joueur de l'équipe cette année. Et évidemment que dans le marasme de l'année au Real, bah oui, c'est le meilleur joueur parce que finalement, t'as pas grand-chose à te mettre sous la dent de plus. Et c'est même pas
meilleur buteur en Espagne.
Et c'est même pas une énorme récompense pour lui parce que le Real a fait une très mauvaise saison. Moi, je te dis que les chiringuitos et tout ça, ils sont juste les avant-gardistes d'une grande tendance. Qui va pousser certains journalistes ou chroniqueurs ou autres à devenir les esclaves des réseaux. Parce que résister à ses opinions et ses algorithmes va devenir toujours plus compliqué. Parce que céder à la pression, moi je le sais, parce que je le vis très régulièrement. Alors en plus, souvent, on est même responsable de ces choses-là, parce que nos phrases sont découpées par nos propres CM, on est nous-mêmes les jouets des clics qu'on doit faire, donc après, on se fait pourrir pendant des 24-48 heures sur des trucs qu'on n'a pas dit ou à moitié, que ce soit sur des joueurs de foot, sur tous les sujets. Et moi, je te dis qu'il y a plein de journalistes qui vont avoir leur opinion influencée. Moi, quand je vois aujourd'hui, donc il y avait deux enquêtes. Il a reçu le trophée 5 étoiles de Marca.
Voilà, donc ça, élu meilleur joueur du Real par les supporters.
Quand tu entends ce qu'ils disaient au Chiringuito, les sifflets du Bernabéu, les critiques de partout, les réseaux 100% contre. Enfin, c'est quand même délirant qu'à l'arrivée, il soit désigné. Tu dis, c'est pas possible. Au moins, Vinicius devait lui passer devant.
Non, le seul qui pouvait lui passer devant, c'était Valverde.
On est d'accord.
Et puis après, il y a eu l'affaire avec Chiellini.
Sauf que ça, c'est une réaction sensée, celle que tu viens d'avoir. Mais c'est pas ce qu'on a autour de Mbappé. On n'a rien de sensé. On n'a pas les bémols de Flo Gautreau. On n'a rien. C'est soit t'es un bidon, soit t'es son laquais. D'un côté, c'est hallucinant.
Est-ce que tu peux entendre que toi aussi, tu attaches beaucoup d'importance au réseau? Puisque tu sans cesse, tu cites.
Et on
sait que les gens sont allés à 80 à 90% négatifs sur les réseaux. Ce ne sont pas des gens.
Aujourd'hui,
en tout cas, ça dépend le réseau.
Sur un réseau qui est X, parce que
Si aujourd'hui on ne combat pas ce mode de faire, et ce que va être capable de faire l'intelligence artificielle, de transformer tes propos et tout ça, notre métier, on est mort.
Non, mais j'ai bien compris.
On est mort.
Si
tu ne te bats pas pour introduire de la nuance, pour ne pas être renvoyé forcément.
Mais tu veux introduire de la nuance avec des extrémistes?
Pardon?
C'est très difficile d'avoir de la nuance avec des extrémistes. Et sur les réseaux, malheureusement, il y a beaucoup d'extrêmes.
Mais t'es obligé de combattre ça. Parce que je te dis qu'il y a, si tu faisais un débat avec le mec du Chiringuito, moi je te dis que ce gars-là, il a été influencé, il a répété ce qu'il disait sur les réseaux. Et sur ce qui s'est passé. Parce qu'en plus, tu as des institutions qui mettent en place des armées.
Non mais ça d'accord Daniel. Quand on dit les réseaux,
tu dois y faire attention. C'est X principalement.
Voilà, parlons de X parce qu'il faut quand même les nommer, les citer.
Oui,
X.
Oui, mais
X
TikTok, a quand même été... TikTok propage également plein de petits extraits.
Par exemple.
Plein de petits extraits. C'est simple. Moi, sur le match Bayern. Parce que moi je me plains toujours de quand c'est à mon désavantage.
Bayern Real.
On a coupé des bouts. Sur le Bayern PSG. je croisais plein de gens et tout, ils disaient, ouais, fantastique ton prono, t'avais dit un partout. Putain, je me suis cassé la tête. Je me dis, à quel moment ils disent que j'ai dit un partout, machin et tout. En fait, non, ça avait été découpé d'une façon. J'avais dit, il y aura deux buts dans le match. Hein, les... enfin, c'est n'importe quoi. J'avais pas dit ça. Mais Daniel... je m'en foutais de l'avoir dit ou pas. Je suis pas pronostiqueur professionnel. Souvent, on le fait pour se marrer.
Les gars, on voulait parler de Mbappé. On est en train de parler des réseaux sociaux.
Mais on dévie pas parce que
c'est la vérité. C'est ce que t'as dit, Gilbert. Il y a quand même des réseaux.
Les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Et il y a des risques sur Mbappé de négatif sur les réseaux sociaux. On constate dans un sondage clair que, en fait, c'est pas la réalité.
Il y a des rafales algorithmiques que tu prends dans la tronche qui sont incroyables.
Mais c'est aussi vrai. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas les réseaux. C'est notamment un réseau qui, notamment depuis que ce nouveau propriétaire,
Elon Musk,
il fait exprès, qu'il veut. Attends, il veut du clic, il veut des gens final, qui ne sont pas.
Mais on tombe dedans, puisque les clics, on les poursuit dans les médias. Les médias, les poursuivent, les clics.
Non,
il y a 24 heures, je me suis fait pourrir pour une phrase découpée. Et c'est nous qui le faisons nous-mêmes.
Oui, mais t'as été pourri par qui? Par des gens qui représentent les extrêmes.
Sur Insta aussi.
Les Galéa.
Oui, mais bon.
Alors, proposition.
Oui, moi j'avais.
Et si l'After Foot quittait X?
Ah, mais moi je serais d'accord.
Moi non. Non, moi
je suis pour le combat.
Moi je réponds, une sorte de combat. Non, dis, bah, nous, on cautionne pas ce qui se passe.
Je ne refuserai jamais le combat contre.
Non, mais c'est pas
le combat. Mais là, c'est le combat contre des gens qui ne veulent pas combattre.
Il n'y a pas qu'une histoire de combat.
Moi, je pense qu'on s'en porte très bien.
Il n'y a pas qu'une histoire de combat. Moi, je suis pas d'accord avec ce.
Après, je vous parle pas de vous personnellement, en fait, si vous voulez.
Oui, mais justement, mais moi, la façon dont je fonctionne avec X, puisque je suis sur X depuis très longtemps, et Twitter avant, évidemment.
C'était quand même Twitter, Flo.
Mais non, mais c'est pas le problème. Ouais, moi, je veux dire juste
si c'est le problème.
Quand il y a quelque chose de très agressif, je réponds dans un premier temps. L'agressivité descend de 90%. C'est comme dans la rue. Et ensuite, tu peux engager un débat et les gens te disent, ah, ok, j'avais pas bien compris. C'était un extrait, c'est un machin. Et après, il reste effectivement 5, 7, 8% de gens qui veulent rien comprendre. C'est pas très grave. Et je trouve que ça reste quand même un lieu où on échange et où on débat. Et le deuxième point, c'est pas parce qu'il y a eu ce débat. Alors, c'est intéressant de voir que les gens votaient pour Mbappé en disant que c'était le meilleur joueur de la saison. Mais moi, c'est un peu l'inverse. J'ai envie de dire, moi, je suis surpris que des gens, là, je reviens au fond du truc, que des supporters aient voté pour Mbappé cette saison, parce que je dis que, ok, il a des stats, mais c'est dans ce cas-là aussi des supporters un peu footix qui regardent les stats et qui voient pas bien ce qu'il y a dans leur club. Vous l'avez dit.
Ça, c'est vrai aussi.
Mais moi, j'en veux revenir au fond du débat, parce que l'histoire des réseaux, je suis d'accord, on le sait, les armées numériques et compagnie.
On ne parlait pas de ça. Là, on parlait. D'abord, on regarde. Vu la saison catastrophique, c'est pas complètement dingue que ce soit lui qui soit désigné.
C'est pour de mauvaises raisons, c'est pour ça que je veux dire que moi j'ai envie de juger aux
États, on va dire que c'est le moins pire.
Et puis ok, il marque des buts, mais t'as envie de dire aux gars, t'as pas des joueurs plus importants, tu vois, dans votre équipe.
En l'occurrence au Real, non, il y avait pas cette année.
Si, Valverde a raison,
donc on est sur un débat à deux, ça va.
Non, mais c'est pour ça que
moi je connais pas la différence de vote avec Valverde.
Non, mais on peut critiquer
par rapport à l'expression de la haine. On n'était pas du tout à imaginer que ça puisse être ça le résultat, c'est ça que je veux dire.
Moi c'est ça qui me surprend. Par rapport aux supporters du Real.
Mbappé va être plutôt
sur ce côté un peu foot. Il a mis 50 buts, donc il est meilleur.
On peut ajouter aussi qu'il y a énormément de. Pourquoi c'est la pub là?
Ouais, pour conclure, vas-y.
Non, parce que je voulais également parler, par exemple, je crois que c'est ce week-end qu'il va y avoir interview de Mbappé.
Attends, parce que si tu repars sur un développement, je préfère qu'on fasse la pub et qu'on reprenne ensuite. Parce qu'il est quasiment 22h59. On se retrouve donc tout de suite dans l'after. On parlera aussi de Neymar et de sa situation dans quelques minutes. Du nouveau coach de Monaco et du barrage retour de demain soir entre Nice et Saint-Etienne.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.